aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme dont la vie fut bien remplie, un peu trop peut-être. Il avait tant d'envie en lui, tant d'élan et d'énergie, tant d'amis aussi à qui il ne savait pas dire non, qu'il lui arriva peut-être de s'éparpiller. Tout lui disait de toute façon, tout lui plaisait, tout l'appelait. Alors longtemps, il dit oui à tout. Au fond, il avait du temps pour tout, peut-être même avait-il du talent pour tout. Mais qu'est-ce qui lui correspondait vraiment ? Parmi toutes ces voix, laquelle était vraiment faite pour lui ? C'était une bonne question à laquelle il n'avait pas le temps de répondre. Il aura fallu que passent les années, que passent les décennies et que blanchisse sa barbe pour qu'il comprenne combien la force de la jeunesse l'avait détourné de cette question « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» Il aura fallu vieillir pour qu'il se demande enfin lequel de ses désirs ne surtout pas trahir. Il avait passé sa vie à produire, à fédérer, à avancer, à encourager, à créer et même à procréer. Mais tout à sa puissance de vie, tout à ses projets, il avait parfois manqué de temps pour contempler. Un tableau, un paysage, les feuilles des arbres déchirées de soleil, le bruit du vent dans les feuilles, le silence. Il aura fallu que passent les années et qu'un peu de son énergie se retire, lui fasse enfin défaut pour qu'en lui s'ouvre un espace nouveau. Un espace pour être simplement, pour contempler ce que le monde recèle de beauté. Il lui aura fallu vieillir et un peu ralentir et même une forme de fatigue pour apprendre à s'émerveiller de ce qui aurait pu ne jamais exister. Et puis, il faut l'avouer, comme tant d'autres congénères humains, comme tous ces mammifères humains dont le désir le plus impérieux, d'après Hegel, est le désir de reconnaissance, il eut longtemps envie de plaire, d'être validé, pour parler comme Booba, le plus hegelien des rappeurs. Il aura fallu que passent les années, il lui aura fallu vieillir pour se trouver enfin délivré du « qu'en dira-t-on ». Voilà bien la grâce de vieillir, se foutre enfin de tout, sauf de son vrai désir et de cette lumière si belle, un instant, dans le ciel. Se connaître enfin un peu mieux et savoir en même temps que du reste, au fond, on ne sait pas grand-chose. Vieillir en sage, sceptique et contemplatif. Pour en parler ce matin de ce que c'est que vieillir et même que bien vieillir, j'ai la joie de recevoir un enfant du rock de 71 ans, animateur de télé, de radio, réalisateur, acteur, écrivain, qui a lancé il y a un an un étonnant trimestriel, le bien nommé Vieux. Vous l'avez reconnu, Antoine Decaune est avec nous ce matin dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon, et en sa compagnie, nous allons nous demander comment on fait pour bien vieillir, comment on fait pour ne surtout pas devenir un vieux con, ni bien sûr une vieille conne.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Antoine Decaune.
Bonjour, d'autres mots, si j'ai bien compris, vieillir sans pépin.
Exactement. Mm-hmm. Vieillir en s'ouvrant à l'émerveillement, à la contemplation, en étant libéré du « qu'en dira-t-on ? » C'est quoi alors votre secret à vous ? Parce que vous avez l'air de bien vous porter.
Je ne sais pas si c'est... Je pense que le secret reste bien entier, parce que je n'ai pas réussi à le percer tout à fait, ce secret. Je pense qu'il y ait... Je continue à être aussi enthousiaste et curieux que par le passé. Ça, pour le coup, ça...
La curiosité, c'est sûr que c'est, ça aide à bien vieillir.
C'est essentiel. C'est-à-dire, je me réveille le matin en me disant « qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ?» Alors, je me pose la question de manière un peu plus tendue aujourd'hui que j'ai pris des années. « Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ?» Là, par exemple, un mal de dos.
Je veux bien, vous êtes arrivé complètement coincé, cassé en deux.
Oui, parce que j'ai voulu refaire du sport trop violemment, voilà.
Parce que vous aviez arrêté ?
J'avais un peu levé le pied, oui. Un peu levé le pied.
Et alors, la curiosité et peut-être aussi le travail. J'ai entre les mains votre dernière BD, enfin votre première BD d'ailleurs, qui s'appelle « Île déserte ». Georges, la vie sauvage, chez Dargo, où vous racontez ce sale coup que vous a fait votre père, quand vous aviez 9 ans, de se barrer un an sur une île déserte, sans même vous souhaiter votre anniversaire, alors qu'il parlait à la radio tous les jours. Peut-être le travail, ça aide aussi, non ?
Oui, bien sûr. Non, l'enthousiasme, si c'est du seul enthousiasme, c'est un peu une espèce de béatitude vaine. Non, c'est beaucoup de travail, c'est de la rigueur et de la discipline,
ah bon ?
Évidemment.
Ouais.
Ah bah oui, je ne crois même qu'à ça.
Ah bon ?
Ah oui.
Développer un peu cette idée de discipline.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut fabriquer quelque chose, que ce soit une idée, que ce soit un objet, que ce soit sans se soumettre à une forme de discipline. C'est-à-dire, les meilleures idées, si elles ne sont pas appliquées et travaillées, vraiment de très près, ça n'aboutit à rien. Donc oui, la discipline.
Vous avez aussi lancé ce trimestriel Vieux il y a un an. Alors, étonnamment, il marche.
Ouais.
Dans la presse d'aujourd'hui, c'est assez rare. Vous en vendez 60 000 par exemplaire. Je crois que c'était 90 000 le premier exemplaire.
Non, le premier, oui.
C'est le magazine qu'on finira tous par lire, ça s'appelle. Et c'était quoi l'idée ?
L'idée, alors d'abord l'idée n'est pas de moi, elle est d'un éditeur qui s'appelle Romain Jubert et qui est venu me trouver un jour en me disant voilà, il avait lancé un autre trimestriel auparavant qui avait pour titre Bon et qui parlait du goût de la gastronomie avec Thierry Marx, que je trouvais très bien fabriqué. Il me dit voilà, j'ai une nouvelle idée, j'ai envie de faire un truc sur l'âge, sur le temps qui passe et qui s'appellerait Vieux. Et j'ai tilté en fait sur le titre. Ouais. Je me suis dit, oui, finalement, pourquoi il s'adresse à moi ? Je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, que j'avais vieilli à ce point-là, et oui, j'avais 70 ans, et 70 ans, biologiquement, on est vieux. Mmh. On est d'accord.
Ouais.
Donc, j'ai pris ça en considération, et je me suis dit, s'il me le propose, c'est parce qu'il pense que j'ai une quelconque compétence pour parler du sujet. Ma compétence, c'est que je suis moi-même vieux. Donc, enfin, je peux parler de quelque chose que je connais. Donc, ça m'a séduit immédiatement.
Ça vous était déjà arrivé, quand même. Le rôle, par exemple, vous avez bien
oui,
connu.
Mais c'était des choses en mouvement, des sujets après lesquels je courais, où j'étais toujours en train de chercher la nouvelle sensation, le nouveau groupe. Là, c'est un état de fait. Je suis vieux, donc je peux parler.
Vous ne le niez pas. On pourrait imaginer qu'il y a deux grandes figures de vieux. Le vieux con que j'ai évoqué, pour le développer, ce serait quelqu'un qui balance des certitudes, qui ressasse, qui veut qu'on l'écoute, qui s'énerve quand on ne l'écoute pas. Et de l'autre, une figure, alors je pense un peu à Michel Serres, un vieux souriant, sceptique, qui doute de beaucoup de choses. Ouais. Plus il a grandi en âge, et finalement moins il a eu de certitudes, et peut-être avec une belle curiosité pour l'autre. Alors comment on fait pour ressembler plutôt au second qu'au premier ?
Une question, une fois de plus, de curiosité intacte. C'est-à-dire, je suis très, très socratique en ce sens-là. Je sais que je ne sais rien. Je sais très peu de choses. Et je préfère toujours la question à la réponse.
Donc, on peut presque aller jusqu'au scepticisme, au fond.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Je doute de beaucoup de choses. Je n'ai quasiment pas de certitude.
Alors, je vous propose d'écouter maintenant un grand sceptique.
This has been the most comfortable and free part of my life. And I suppose this is the only part of my life in which I've attained possession of all the clichés that young rock stars are supposed to have. So what if my knee hurts? I don't give a fuck. I don't care.
I am a passenger.
À mon avis, le sage Iggy Pop nous apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous apprend, Iggy Pop ?
Regardez dans quel état il est.
Ouais.
Ce qu'il m'apprend, c'est que c'est un sage, en fait, Iggy. J'ai fait une très longue interview avec lui l'année dernière, mais quand je dis très longue, c'était une interview de 3 heures.
On a vraiment, pour vieux, justement.
Pour vieux, et avant, j'avais fait un documentaire sur lui pour la télé.
Ouais.
Donc c'est quelqu'un que je connais, que je fréquente depuis longtemps, et il a survécu évidemment à tous les excès, c'est un peu comme Keith Richards, quoi. C'est des survivants, c'est des gens qui sont passés à travers des gouttes. Et il en a tiré une grande sagesse, c'est-à-dire il est sorti de tous les clichés, comme il le dit à l'instant lui-même, tous les clichés du rock, auxquels sont soumis et dont sont victimes les jeunes artistes, souvent. Il a dépassé tout ça. Il a plus rien à prouver. Il a gardé intacte sa part de folie, vraiment. Parce qu'il est possédé quand il rentre sur scène. Il est aussi possédé aujourd'hui qu'il l'était quand il avait 30 ans. Et c'est un artiste. C'est quelqu'un qui est toujours dans la recherche, dans la remise en question de ses acquis, quoi.
Ouais. Mais il y a aussi peut-être un autre enseignement, c'est que quand on a écrit, d'ailleurs c'est lui qui le disait dans une interview, parfois je m'endors le soir en pensant que j'ai écrit The Passenger, et quand même je m'endors bien, ça veut quand même peut-être dire quelque chose qui est d'ailleurs douloureux quand on n'a pas cette chance, mais qu'on vieillit mieux quand on s'est quand même accompli, quoi. Quand on a fait des choses dont on est fier.
Évidemment, bien vieillir, c'est avoir répondu à quelques questions. C'est déjà l'avantage de la vieillesse, c'est qu'on n'est plus là à chercher sa place dans le monde et avoir besoin de se prouver à quel point on existe et de surtout prouver aux autres à quel point on existe. Il y a une forme de liberté, quoi. Il y a une forme de détachement. Il y a
D'allègement.
D'allègement. Voilà. Moi, je me sens beaucoup plus léger aujourd'hui qu'il y a 30 ans, par exemple.
Ah oui. Ouais. Ça se manifeste comment ?
Je suis moins préoccupé par des choses futiles et vaines. Voilà, j'accorde moins d'importance au regard des autres. Je suis pas dans cette quête effrénée d'avoir besoin d'être aimé, reconnu, admis.
Finalement, est-ce que vous étiez tant que ça dedans avant ?
Je l'étais un petit peu parce qu'on est tous, on a tous besoin du regard des autres, on a tous besoin d'être aimé. C'est celui qui vous dira le contraire ment. Ouais. C'est entièrement faux. On a besoin de qu'au moins ce qu'on fait soit reconnu et approuvé d'une certaine manière. Donc ça, oui, ça j'ai fait un gros pas de côté par rapport à ça. Je m'en fous un peu aujourd'hui.
Et j'avais lu.
Je suis ravi quand ça marche.
Ouais.
Mais si ça ne marche pas, je vais pas me tirer une balle quoi.
J'avais lu quelque chose de très surprenant sous la plume de Marie de Henzel quand elle accompagnait les gens en fin de vie en fait. Alors c'est pas très gay, mais c'est quand même très intéressant l'enseignement. C'est que paradoxalement, il y a des gens qui ont pas trop peur de mourir et d'autres qui tremblent vraiment quand vient la mort. Mmh. Et c'est pas du tout lié aux conditions objectives des gens qui vont laisser derrière eux. C'est pas du tout lié au degré de souffrance physique. C'est plutôt décorrélé. Et en revanche, d'après les études, ceux qui voient arriver la mort sereinement, donc qui sont très bien dans ce moment-là, c'est quand même ceux qui ont l'impression d'avoir saisi les occasions que la vie leur a données pour prendre des risques, pour faire des choses qui leur ressemblent. Bref, l'impression de ne pas avoir trop raté le rendez-vous avec la vie. Et ceux qui le vivent très mal, cette période de la vie, donc le grand âge et puis l'approche de la mort, c'est ceux qui se disent « Merde, j'ai pas osé, j'ai pas saisi les occasions que la vie m'a données, et maintenant c'est trop tard.
» Bah, ni remords ni regrets, voilà. Comme le chante très bien Stéphane Echer, tout est là. Non, j'ai pas des... Moi, j'ai des... Si, j'ai des regrets. Je peux regretter de ne pas avoir réussi des choses comme j'aurais voulu le faire, d'être passé un peu à côté, mais...
Vous pensez à quoi ?
Oh, je pense que... Tu vois, par exemple, j'ai travaillé pendant 2 ans sur un film qui me tenait énormément à cœur, qui était l'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène et qui n'a pas rencontré le succès public qu'il aurait pu avoir. Alors j'ai trouvé plein de circonstances atténuantes, parce que on avait parlé beaucoup de Napoléon pendant...
Ça s'appelait N, c'est ça ?
Ouais, Monsieur N.
Monsieur N.
Et en fait, c'était un film qui m'a littéralement passionné, parce que ça parlait de la perte du pouvoir. Ça s'adressait donc à Napoléon, et c'était un homme qui se demandait comment est-ce qu'on survit à la perte du pouvoir ? Comment est-ce que, quand on a tout perdu, on peut continuer à exister ? Qu'on soit empereur, qu'on soit plombier ou coureur cycliste, la question se pose en les mêmes termes. Et c'est une question qui, moi, m'avait beaucoup taraudé à l'époque.
Mais alors, avec le recul, vous le lisez comment, cet échec ?
Alors,
enfin, si on peut parler d'un échec, c'est moi qui l'avais dit.
Non, oui, c'est un échec relatif, parce qu'en fait, le film a vécu sa vie après, il a trouvé son public, comme on dit, mais... Je vous dis, rationnellement, il y avait eu beaucoup de Napoléon dans l'air, il y avait eu une série avec Clavier, il y avait eu une pièce de Robert Rossen qui avait drainé un monde fou à Paris, il y avait eu je ne sais quelle commémoration, donc tous les hebdos avaient fait leur une sur Napoléon, et nous on est arrivés en queue de peloton, avec Napoléon à Sainte-Hélène, et voilà, la messe était dite. Après, c'était pas un échec pour moi, parce que c'est le film que je voulais faire, et je me retrouve tout à fait dans le film. J'ai pas le sentiment d'être passé à côté du film, quoi.
Et vous avez pensé quoi de Joaquin Phoenix dans le Napoléon
Il m'a un peu désolé. Il m'a un peu désolé, parce que j'avais l'impression de le voir refaire le Joker.
Ouais.
Alors que j'adore Joaquin Phoenix. Ouais. Mais surtout, le point de vue sur Napoléon de Ridley Scott était ridicule, quoi.
Et là, vous écrivez un autre film ?
Ouais.
Un scénario ?
Oui.
Et vous avez réalisé aussi ?
Peut-être. Je ne sais pas encore.
Ça parle de quoi ?
Ah, on est bien indiscret, monsieur Pépin.
C'est secret.
Oui, non, je ne veux pas en parler, c'est trop tôt. Là.
Alors on va laisser le mystère.
Trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us 2 tickets on that Coast City bus. Everything dies, maybe that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City.
nights getting cold. And everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. It's hard to find down here. It's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So, honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. So, raise your hair up nice, kiss yourself up.
C'était Bruce Springsteen, Atlantic City.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici... la substance.
Oh, les gens vont adorer ça.
Nous sommes toujours avec Antoine Decaune sur France Inter. On se demande comment bien vieillir. Mais d'ailleurs, en écoutant cet extrait de Substance, excellent film de Coralie Farja, ça nous invite aussi à nous demander si on ne serait pas aussi autorisé à mal vieillir, au fond.
Ah ben oui, enfin, quand on a le choix, hein.
Ouais, je veux dire, on n'est pas obligé de vieillir jeune. Peut-être que c'est dangereux.
Non, non, bien sûr.
Pas que ça devienne une nouvelle injonction, quoi.
Ah ben surtout pas, évidemment. Non, non, il n'y a rien de pire que les vieux jeunes ou que les jeunes vieux. Non, non, il faut se laisser porter par la vie. Il faut se laisser aller dans le courant, quoi. Il ne faut pas essayer de résister ou faut simplement essayer de trouver ce qu'il y a de les avantages plutôt que les inconvénients. Essayer de s'accrocher à ça.
Les avantages de l'âge?
Bah, les avantages de l'âge, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est cette distance qu'on s'autorise, c'est ce léger détachement, c'est ce regard un peu ironique, amusé, et en même temps, il faut que ça reste toujours passionné, sinon on est mort.
Est-ce que vous avez vécu cette chose, je ne vous connais pas, je ne sais pas, mais que beaucoup de gens confessent, qui est que dans l'agitation de la force de l'âge, dans la vitalité, au fond, on passe à côté de certaines beautés, mm-hmm. de certains émerveillements. Alors, c'est peut-être pas votre cas, mais beaucoup de gens disent ça. Moi, j'en vois beaucoup parce que je fais des conférences et il y a beaucoup de personnes âgées aux conférences et qui racontent que dans leur vie active, elles ne savaient pas contempler un paysage, écouter de la musique classique pendant très longtemps, et qu'à un moment, il y a une relation entre la diminution des forces vitales et la capacité d'émerveillement.
Ben oui, puis surtout l'allègement de la pression du quotidien. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de trimer comme un bœuf pendant 12 heures par jour pour nourrir sa famille, et d'un seul coup on a un peu de temps pour soi et le temps d'écouter, de voir, d'apprécier. Évidemment, ça change tout. Ouais. Mais moi, c'est marrant parce que je suis à la fois hyperactif et en même temps très contemplatif.
Oui. Pour vous, c'est pas nouveau.
Ah non, c'est pas nouveau. Vous pouvez me laisser au bord de l'eau, à regarder l'horizon. Je peux rester tranquillement là quelques heures.
Mais d'ailleurs, malgré tout, je pense que quand on vieillit, on a quand même cette idée de la finitude. On sait que quelque chose va s'arrêter.
Ah ben, on sait qu'on approche du bout, oui.
Et je pense que le simple fait de savoir que ça va s'arrêter, ça concerne aussi la lumière du paysage, parce que ça aussi, ça va s'arrêter. La lumière va changer, le jour va décliner.
Elle va s'arrêter
complètement. Donc, au fond, la fin de tout intensifie l'expérience esthétique, j'ai l'impression.
Oui, vous voulez dire qu'en fait, on profite mieux de chaque instant.
Oui,
parce que...
mais je veux dire, moi, je vais mourir, mais cette lumière aussi, puisque ce paysage, on peut le peindre différemment à chaque seconde. Donc j'ai bien l'impression que vieillir offre la chance d'extase nouvelle, quoi.
Oui, je pense que c'est l'idée de la finitude, c'est-à-dire on sait que le temps est compté, et donc il faut pas trop compter son temps, justement, ouais. En attendant que ça s'arrête. C'est marrant parce que dans la chanson de Springsteen que vous avez passée, il posait cette question, il disait « Tout ce qui vit finit par disparaître, mais peut-être qu'au fond, il y a des choses qui subsistent. Everything that dies, may come back. » Voilà. C'était ça la phrase.
Et il parlait de quoi ? Des souvenirs
des... Ouais, il parlait des souvenirs, des rémanences, de ce qui reste, en fait, du passé. Et pour moi, en fait, je pense qu'on vieillit bien quand on ne se laisse pas submerger par le passé. Quand on ne le laisse pas vous envahir.
Ouais, c'est ça. On n'est pas dans le ressassement, ni la rumination. Et en même temps, on le convoque avec soi. Je vais vous lire d'ailleurs la façon dont Bergson définit une personnalité. Et vous allez voir que c'est exactement, c'est très springsteinien. C'est, si l'on veut, donc c'est Bergson, dans La pensée et les mouvants, c'est, si l'on veut, le déroulement d'un rouleau. Car il n'y a pas d'être vivant qui ne se sente arrivé peu à peu au bout de son rôle. Alors attention, hein, au bout de son rôle, pas au bout du rouleau. Et vivre, ça c'est la phrase de Bergson, elle est dingue, consiste à vieillir. Mais c'est tout aussi bien un enroulement continuel, comme celui d'un fil sur une pelote, car notre passé nous suit, il se grossit sans cesse du présent qu'il amasse sur sa route.
Ah, c'est joli.
C'est joli parce que ça veut dire que c'est pas qu'on ressasse, on n'est pas passéiste, on n'est pas nostalgique, mais quand même, on l'emmène avec soi, son passé.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ou comme le dit autrement Groucho Marx, dans chaque adulte, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
Oui, et il y a aussi un jeune qui est encore là, d'ailleurs.
Qui est toujours là. Ah ben, c'est même capital qu'il soit toujours là et d'entretenir sa présence.
Et c'est d'ailleurs ce qui est très fort dans votre BD. Donc là, vous l'avez écrite avec le dessinateur, c'est Xavier Coste, c'est chez Dargo, Île déserte. Ça raconte le voyage qu'a fait votre père quand vous aviez 9 ans de partir sur une île, faire une sorte de Robinsonade. Et ce qui est très beau dans cette bande dessinée, au-delà des dessins qui sont dingues, c'est que il y a votre regard d'enfant, mais donc 9 ans, mais il y a aussi votre regard à vous d'aujourd'hui, questionnant et ressaisissant ce regard d'enfant. Donc c'est très bergsonien. Vous êtes avec votre passé, non pas alourdi, non pas ruminant, mais avec lui. Vous l'emmenez avec vous. Il y a aussi le point de vue du père que vous arrivez à imaginer grâce à son journal intime que vous avez enfin déchiffré. Et tout ça fait vraiment quelque chose de très émouvant au travers duquel on vous découvre, en fait. Parce que vous êtes un peu, je dirais pas fuyant, mais vous jouez beaucoup, vous échappez. Oui, vous vous échappez souvent.
Fuyant, Charles. Comment ça, fuyant? Je fuis quoi?
J'ai pas l'impression que vous êtes dans la confession ou dans l'honnêteté ou dans l'autofiction. Vous jouez des rôles, voilà. Vous promenez, vous faites plein de choses différentes. Je trouve que là, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur vous, plus frontale, quoi.
J'ai fait un livre bergsonien sans le savoir.
Voilà. Ah. Et puis, toute blague à part, c'est vous avez vécu quelque chose d'extrêmement violent, en fait.
Oui, c'était... Enfin,
c'est un vrai trauma.
Oui, c'était un trauma. Enfin, ça m'a pas non plus poursuivi toute ma vie. Mais ce qui est étrange, quand j'avais 8 ans quand mon père est parti, votre père vous annonce qu'il disparaît pendant un an. Il disparaît de la surface de la Terre. Enfin, il disparaît pas tout à fait, parce qu'il va continuer à communiquer, mais à travers une radio, qui est un objet un peu magique, hein, quand on est un môme, avec des retransmissions comme ça au quotidien de son expérience sur cette île déserte. Donc, à la fois, il disparaît de ma vie, et puis je l'entends qu'il raconte un peu ses aventures sur son île avec les poissons empoisonnés, les requins.
Aventure qui se passe d'ailleurs mal.
Très très mal, et de plus en plus mal, ouais. Et oui, donc c'était très étrange, en fait, c'était une fausse disparition, quoi.
Mais c'est quand même une disparition violente, parce qu'il ne vous parle pas à vous, à la radio. Ouais. Il cloisonne complètement cette espèce de mission et sa vie privée. Mm-hmm. Et vous racontez cette journée difficile, votre anniversaire. Mm-hmm. Voilà, vous espériez qu'il vous le souhaite à vous, en passant par la radio, vu que c'était le seul moyen de communication. Et il ne le fait pas, et c'est quand même une blessure.
Oui, c'est une blessure, mais après, je vais découvrir 60 ans plus tard qu'il n'a pas du tout oublié cet anniversaire. Et quand même, au contraire, il l'a consigné dans son journal en disant à quel point il pensait à moi, en espérant que j'étais en train de devenir un homme.
Voilà, donc
digne de ce nom.
Donc il pensait à vieillir, c'est peut-être aussi comprendre ses parents, finalement.
Oui, c'est comprendre ses parents, c'est devenir un peu les parents de ses parents aussi. Ça, je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que ça m'amusait, en fait, dans cette BD, d'avoir tous ces points de vue croisés, celui du môme, celui de l'homme que je suis aujourd'hui, qui est plus vieux que son père, j'ai 30 ans de plus que mon père quand il est sur son île, et puis les deux points de vue de mon père, le point de vue officiel, le point de vue intime, plus le chien qui vient faire quelques commentaires. Il y a beaucoup de monde qui parle, hein, dans cette histoire.
Très important, ce chien.
Très important. Mais c'était marrant d'avoir sous ces croisements, d'un point de vue narratif, c'était riche.
D'ailleurs, je pense que sans son chien, il aurait pété un plomb plus vite que 4 mois.
Oui, il serait rentré, je pense. Il aurait.
Il y avait des requins, l'eau était dégueulasse.
Ouais.
n'y a rien, rien de l'île paradisiaque.
C'était les pires conditions possibles et imaginables. Pas de végétation, pas de fruits, pas de légumes, de l'eau à peine potable, des moustiques partout, une chaleur accablante, enfin un cauchemar quoi. Les Français avaient établi un bagne sur cette île au 19e siècle. Puis ils avaient
pire
finalement
Cayenne,
renoncé.
Quoi.
Mais ils avaient renoncé parce que c'était pire que Cayenne, oui.
Bah, bonne idée de votre père.
Ah, excellente, non?
Alors, on aurait pu penser à cette idée que vieillir, c'est réussir à pardonner à ses parents, mais justement, je n'aime pas cette idée. Je pense que vieillir, c'est être en paix,
ouais.
Mais soit en pardonnant, s'il le faut,
ouais.
Soit en ne pardonnant pas. Ce
ouais.
qui compte, c'est de trouver la paix, quoi.
Ouais. Mais en même temps, vous savez, j'ai souvent l'impression qu'on a, en vieillissant, enfin nous les garçons, on a le sentiment de s'approcher de plus en plus de ce, ce qu'ont été nos pères. Je ne sais pas si ça marche pour vous.
Un peu. Ça n'est pas...
Pas totalement.
Si, mais ça me fait un peu... Vous le souhaitez, vous avez envie de ça?
Non, je n'ai pas envie de devenir mon père à la place de mon père, mais je me rends compte que je comprends de mieux en mieux en vieillissant certains ressorts de son existence. Ce
ouais.
qui l'a fait agir, pourquoi, ce qui me semblait mystérieux pendant très longtemps, je finis par le comprendre. Ça ne veut pas dire que je deviens lui, mais ça veut dire que je m'en approche.
Et donc, le concernant, vous comprenez mieux ce qu'il a eu en tête, à ce moment-là, au moment de cette Robinsonade.
Je comprends qu'il a eu en tête, c'est un homme de cette génération qui était passé par la guerre. Il a 20 ans quand la guerre éclate, il a perdu son père 4 ans plus tôt, puis il a passé des années dans un pensionnat religieux un peu dur.
Une sorte de Bétarame, quoi.
Ouais, enfin, sans attouchement, mais les jésuites de Toulouse, le Caouzou. Et donc, il y a toute cette jeunesse qui s'est délitée, qui est à côté de laquelle il a l'impression d'être passé sans avoir prise dessus. Et donc, quand il exerce son métier, il a besoin de compenser d'une certaine manière, de se mettre en danger à nouveau, pour des raisons plus futiles que la guerre, mais d'aller explorer, d'aller voir le monde. Pas d'être un journaliste assis derrière un bureau qui commente.
Alors, on a parlé de Bergson, il y a un autre philosophe que j'aime bien, c'est Clint Eastwood.
Ah, j'adore.
Je vais vous raconter le rapport qu'il a à sa vieillesse. Donc, je cite Clint Eastwood. Vous allez voir, c'est assez troublant. Chaque jour, quand je me réveille, donc il a aujourd'hui 94 ans et il fait encore des films. Chaque jour, quand je me réveille, je ne laisse pas entrer le vieil homme dans ma maison. J'ai dû le traîner ici parce qu'il était déjà confortablement installé, me dérangeant tout le temps, ne laissant aucune place à autre chose que la nostalgie. Mais je ne laisse pas entrer le vieil esprit critique, hostile et envieux, celui qui scrute notre passé pour nous attacher à des plaintes ou à des angoisses enfouies. Et Clint Eastwood conclut, vous devez tourner le dos au vieux murmureur, plein de rage et de plaintes, celui-ci manquant de courage, niant que la vieillesse puisse être créative, déterminée, pleine de lumière et de projets.
C'est magnifique l'idée de ne pas laisser rentrer le vieil homme, je trouve ça sublime, quoi. Évidemment.
Encore un matin, mon cœur explose. ce rouge. Mon cœur explose.
Tu te saisis du jour comme on saisit une mélodie qui vient. Des années de velours enroulées autour de ton cou et du mien. Marche arrière demi-tour comme une mélodie qu'on enfreint. Un septennat d'amour au singulier, au féminin. Un septennat d'amour au Bervilliers, on est témoin.
C'était Léonie Pernet, L'Horizon Rose.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Le plus grand drame de la vieillesse, contrairement à ce qu'on raconte aux femmes dans des magazines féminins, ce ne sont pas les rides, c'est l'isolement. Et entretenir du lien sans cesse et le plus longtemps possible, c'est absolument se sentir vivant jusqu'au bout.
Alors, nous sommes toujours avec Antoine Decaune sur France Inter. On parle de ce que c'est que bien vieillir. Et là, on vient d'entendre Perla Servan-Schreiber, qui parle aussi très bien de cette question. Je vous recommande son livre, Les promesses de l'âge, sous-titré 75 ans, nouvelle liberté. Et ce que nous rappelle Perla Servan-Schreiber, qui est très important, c'est que le problème de l'âge, c'est souvent l'isolement. Mm-hmm. Non pas la solitude consentie, mais l'isolement subi, évidemment.
Mm-hmm. Mais évidemment, c'est ce qu'il y a de pire. C'est quand vous vieillissez, vous perdez vos proches. Les membres de votre famille, vos amis, vous retrouvez isolés, enfin c'est évidemment, ça c'est le drame absolu.
Et c'est d'autant plus violent que justement vieillir c'est comprendre le prix des liens, c'est comprendre qu'on est fait de ces liens, et c'est pourquoi quand ils sont coupés, quand on est coupé de ça, on a presque plus de raison de vivre.
Ouais.
Et donc tout ce qu'on a dit auparavant, la souplesse, le scepticisme, c'est bien gentil, mais si c'est pour être seul et isolé...
Quand vous arrivez vraiment tout au bout et que vous êtes vous retrouvez seul au monde, il n'y a plus grand-chose qui vous rattache, quoi. Mais je pense aussi que vieillir, c'est se résigner. C'est cesser d'avoir du désir, des envies, de la curiosité, dont on parlait tout à l'heure. C'est se résigner en disant, après tout, voilà... J'ai fait mon chemin.
Mais on pourrait se dire, c'est ce contre quoi il faudrait lutter. Mais en même temps, j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas aussi bien de vieillir avec un peu d'aigreur, avec un peu de fatigue, de se dire que le monde va mal, qu'on n'arrivera pas à le réparer, que tout ça fait chier et que finalement il n'y a pas à se forcer à bien vieillir. Est-ce que on n'a pas le droit aussi de mal vieillir au fond ?
Mais je vous dis pas le contraire. Je vous dis pas qu'il faut absolument vieillir en étant positif, heureux et satisfait de son sort. Non, évidemment, il y a le poids du monde quand même qui finit par vous peser sur le dos. Mais je veux pas faire une réponse qui soit une réponse générique ou parler au nom des autres. Moi, je sais que mon expérience pour l'instant de la vieillesse, parce que je suis
un jeune vieux,
71 balais, ouais, ça j'ai encore un peu de chemin, j'espère.
Ouais.
Ce que j'expérimente pour l'instant, c'est que je me rends compte que j'ai un appétit qui est toujours aussi féroce. Voilà, qui se manifeste autrement, qui s'est réparti autrement, mais j'ai pas du tout cette lassitude, je la sens pas, honnêtement. Je vous dis ça très sincèrement, si c'était le contraire, je dirais.
Je pense quand même que ça s'entretient. Je veux dire, quand on a été curieux toute sa vie, on arrive davantage à maintenir cette curiosité dans l'âge.
Oui, et puis il reste tellement de choses à lire, à découvrir, c'est infini, quoi, donc je peux pas me résoudre à me dire j'ai passé mon tour.
Alors, je recommande pour tout le monde sur la plage cet été donc Perla Servan-Schreiber, Les promesses de l'âge, et puis en complément Pascal Bruckner, Une brève éternité, philosophie de la longévité, où il dit cette chose très intéressante: la vieillesse est un combat entre la ferveur et la fatigue, entre la grâce du renouveau et la disgrâce du renoncement. Ça rappelle un peu ce que vous disiez, Antoine Decaune. Mais surtout, il a une bonne formule, c'est que on a 20 ans de vie de plus. Par rapport à il y a 50 ans.
Ouais.
Et il dit, qu'est-ce qu'on va faire de nos 20 ans ? Ouais. Sous-entendu, qu'est-ce qu'on va faire de nos 20 ans de vie supplémentaire ?
Bon, ça ne sera pas les 20 ans les plus flamboyants. Hein.
je ne sais pas,
ouais.
Pourquoi pas ?
Ouais, pourquoi pas.
Mais je vous pose la question, qu'allez-vous faire de vos 20 ans de vie supplémentaire ? En fait, il y a 50 ans ou il y a 60 ans, vous seriez mort maintenant.
Ouais.
Et là, vous avez pris 20 ans de plus. Vous allez en faire quoi ?
Moi, je vais continuer à écrire. Je vais continuer à, oui, écrire principalement, parce que l'écriture a toujours été le pivot de toutes mes
activités.
Vous
avez fait des romans, des scénarios.
Donc je vais continuer à écrire, je vais essayer de réaliser, faire encore un film ou deux.
Le film dont vous n'avez pas voulu nous dévoiler.
Le film mystère.
C'est ça, oui.
Non, il y a un film que je rêve de faire, malheureusement, je n'y arriverai jamais. C'est un roman de Stevenson qui s'appelle Le Maître de Ballantré. Voilà, c'est un film un peu ambitieux qui se passe dans l'Écosse du XVIIIe siècle avec des aventures qui font courir les héros depuis les Indes orientales jusqu'aux forêts d'Amérique du Nord en passant par des scènes de piraterie. Bon, c'est un projet un peu mégalo, mais si je pouvais faire un film, un grand film, ce serait celui-là. Mais non, je vais faire d'autres films plus raisonnables. Je vais écrire, je vais continuer à m'occuper de ce journal vieux qui me tient beaucoup à cœur maintenant, parce que je m'amuse énormément à le faire, je ne sais pas. Et puis je vais laisser la vie rentrer, je suis ouvert aux propositions. Là, j'ai très envie de faire le comédien. Bah, il n'est pas impossible que j'y revienne dans les mois qui viennent. Donc, vous voyez, tout reste ouvert, voilà.
On a le droit de lire vieux à partir de quel âge ?
Vous pouvez commencer très tôt.
Ouais.
Vous pouvez commencer à... J'ai vu des gens d'une quarantaine d'années s'y intéresser et sans avoir le sentiment d'être débarqué ou qu'on parlait à quelqu'un d'autre.
Donc dans Vieux, des contributions de Noël Bréham qui s'occupait des petits bateaux, des questions des enfants justement sur France Inter, de Laurent Chalumeau, votre compère de toujours, vous avez fait beaucoup de sketchs ensemble, de Thierry Marx, Patrice Lecomte, Olivia Gazalet, philosophe qui est aussi parfois sous le soleil de Platon, Daphné Roulier que vous connaissez bien. Et donc je recommande ce Vieux. Et comment vous expliquez que vous sortiez un magazine au moment où tous les magazines s'écroulent et celui-là marche ? Et en plus il s'appelle Vieux. Est-ce que Vieux ça veut dire aussi Vieux, sous entendu pote ou cette façon de dire...
Vieux, c'est une manière d'éviter les fameuses périphrases senior, vermeil, mature et tous ces mots pour tourner autour du sujet au lieu de le dire simplement. Vieux, c'est vieux. Vieux, c'est une manière d'assumer son âge. Et c'est pas un gros mot. Ça n'a rien d'insultant d'être vieux. Donc c'est une manière, je sais pas, de parler de ça avec un peu de légèreté, un peu d'humour, et en même temps de traiter vraiment des problèmes que ça suscite. C'est-à-dire, voilà, on parle de la place des vieux dans la société, de ce que c'est que de vieillir dans le monde d'aujourd'hui, de ce à quoi on peut servir, de la transmission, dans les deux sens, entre les générations.
Enfin, justement, j'ai entre les mains le numéro 5, le dernier, est titré « Mon corps, ma bataille ». Bonne blague en dessous, il n'a jamais été parfait, maintenant il a des excuses. Et effectivement, c'est le grand absent de notre discussion pour l'instant, le corps, qu'est-ce qu'on fait de ce corps qui vieillit, qu'est-ce qu'on fait de ce corps qui se rigidifie, qui d'ailleurs symbolise aussi parfois la rigidité des idées et des idéologies. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ça ?
Bon, on essaie de l'entretenir. On fait un peu, alors sans hystérie non plus, mais travailler la souplesse, dans tous les sens du terme. Voilà, des étirements, de l'articulation,
souplesse mentale aussi.
Je crois pas que je suis en train de donner des conseils de vieillesse.
Mais si. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul, on va écouter maintenant quelqu'un qui en parle très bien.
Ce qui est devenu une joie pour moi, très vite, c'est que quand j'ai vu arriver ce blanc, avec la différence avec le noir de mes cheveux qui étaient teints, j'ai trouvé ça splendide, en fait. Et donc, je jubilais. C'est-à-dire que j'avais quand même passé ma vie comme plein de femmes. On va se faire teindre les cheveux. Et puis après, j'ai la catastrophe de voir revenir du blanc. Et tout d'un coup, je vois ce blanc arriver. Je me dis, mais en fait, c'est une très bonne nouvelle. Et je trouve qu'à mon âge, on n'a pas tant de trucs complètement nouveaux, comme ça, qu'on peut avoir et qui soient si resplendissants. Tout le monde dit, ça ne plaît pas aux hommes. Qu'est-ce qu'on en a à faire de plaire à tous les hommes ?
Alors c'était Sophie Fontanelle, donc qu'est-ce qu'on en a à faire de plaire à tous les hommes ? Ça rappelle un peu cette distance par rapport au regard de l'autre, au qu'en dira-t-on. Et puis c'est beau aussi d'aimer ce blanc et d'être surpris de l'aimer.
Moi je trouve qu'il faut totalement assumer son âge. Faut surtout pas se planquer, après chacun fait ce qui lui plaît, mais essayer de se faire retoucher dans tous les sens, je comprends pourquoi certaines femmes le font et pourquoi c'est une nécessité. Mais moi, mon point de vue, et vous allez me dire que je suis un vieux privilégié parce que j'ai un ADN favorable, faut se laisser vieillir et faut assumer le temps. Donc comme le fait très bien Fontanelle, elle devient toute blanche. Voilà.
Mais c'est pas plus facile pour les hommes quand même ? Si on est honnête.
C'est plus facile, évidemment que c'est plus facile pour les hommes.
Ces hommes qui n'étaient pas terribles et qui vieillissent bien, qui avec le visage un peu buriné, avec des rides, ils ont l'air d'avoir de l'expérience. Tiens, alors qu'au fond, il y a une injustice un peu.
Totalement injuste. Oui, totalement injuste, mais malheureusement, on ne va pas réussir à la résoudre aujourd'hui.
Elle est injuste, mais elle est peut-être plus fabriquée que naturelle, par ailleurs.
Elle est... Non, c'est deux traitements. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Les hommes vieillissent mieux, oui, c'est un fait que les femmes, et c'est totalement injuste et dégueulasse, mais je n'y peux rien.
Mais vous ne croyez pas que c'est moins une réalité objective que le regard social qui est porté? C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à trouver... ça a peut-être changé grâce à Sophie Fontanelle, mais on n'est pas habitué à trouver qu'une femme puisse être sexy avec des cheveux gris et poivre sel, ouais. Alors qu'on est habitué à trouver qu'un homme, il a de l'expérience et du charme comme ça. Peut-être qu'on peut changer de regard aussi.
Oui, oui, je ne sais pas.
Vous n'avez pas l'air très convaincu.
Non, pas totalement. Moi, je suis convaincu par l'intelligence et par l'humour, par la malice, et c'est pas du tout, oui. je botte pas en touche, hein, mais je préfère ça de toute façon chez une femme.
Alors il y a une phrase de la sagesse chinoise que j'adore, j'avoue que j'ai oublié l'auteur.
Lao Tzu.
Sûrement.
Toujours Lao Tzu.
L'expérience, ouais, est un peigne pour les chauves.
C'est bien ça.
C'est pas mal, non?
Ouais, c'est pas mal.
En tout cas, ça nous protège de devenir un vieux con.
Ouais.
Au lieu de dire, ouais, je sais, je vais t'apprendre ce que je sais, ce que la vie m'a appris, eh ben, sache que l'expérience, pour moi, ça, je peux en faire quelque chose pour moi, mais pour toi, c'est comme un peigne pour les choses.
Ouais, puisque vous entendez aux aphorismes, il y en a un que j'aime beaucoup de Lichtenberg, qui est le couteau sans manche, auquel manque la lame. C'est pas mal, ça, non?
Ah, c'est Mao Tse-tung, c'est ça?
Non, c'est Lichtenberg.
Alors, il y a deux dernières pistes que je voudrais qu'on explore avec vous avant que l'émission s'achève, sur bien vieillir. La première, c'est, on a parlé du prix des liens, mais peut-être qu'on pourrait aller jusqu'à l'idée de générosité. C'est-à-dire que peut-être la vie m'a parfois pas laissé le temps ou l'énergie de prendre soin des autres, d'avoir du temps pour les autres, de dévouer aux autres. Peut-être qu'en vieillissant, je peux prendre du temps pour les autres, et que finalement, ce qui va me faire bien vieillir, c'est la générosité.
Absolument. La générosité, l'attention aux autres, justement ce temps dont on dispose, qu'on n'avait pas avant, qu'on peut leur consacrer à ses proches, mais pas seulement aux proches, à être ouvert, à rester ouvert, voilà, à écouter ce qui se passe, à faire preuve d'indulgence. Très important, l'indulgence.
Ça fait plusieurs fois que vous revenez sur ce mot « ouvert ».
Ouais. Il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert. C'est ce que disait Clint. Hein. Il ne faut pas laisser le vieillard rentrer. Il ne faut pas fermer la porte.
Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que disait aussi Hölderlin, poète romantique allemand. Viens, ami, entre dans l'ouvert. Je trouve ça très beau. Donc, d'ailleurs, il y a un chercheur en neurosciences, Jack Panksepp, qui a montré que dans les besoins primaires de l'humain, enfin des mammifères en général d'ailleurs, il y a boire, manger, dormir, le sexe pour l'espèce, il y a qu'on prenne soin de moi, mais... c'est complètement révolutionnaire depuis quelques décennies. En fait, prendre soin des autres, c'est un des besoins primaires de l'animal humain, et même des autres mammifères. Ce qui voudrait dire, d'ailleurs, c'est pour ça que plein de gens qui ont vécu des drames, ils se rétablissent en étant bénévoles, en s'occupant des autres. Et ben, peut-être qu'on l'oublie, en fait. On passe souvent sa vie à ne pas assez prendre soin des autres, et que l'âge, peut-être, nous offre cette chance de satisfaire à nos besoins primaires, au fond.
Vous parlez d'or, mon cher Charles. Je ne sais pas quoi ajouter à ça. Évidemment qu'il faut rester très vigilant là-dessus. Et je répète ce mot d'indulgence parce que pour moi, il est capital. Il faut être indulgent. Il faut essayer de comprendre au lieu de juger. Il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. Il faut essayer de se rendre compte que nous-mêmes, on a fait plein de conneries et plein d'erreurs au cours de notre vie. Donc, qui sommes-nous là pour juger?
Alors, parlez-nous un peu d'une erreur comme ça, de laquelle vous vous souvenez, dont vous avez un peu honte et que finalement, vous acceptez aujourd'hui avec tendresse.
Une erreur... je sais pas, peut-être je me suis emporté à des moments, parce que contre des gens dont j'estimais qu'ils me portaient préjudice, ou qu'ils me faisaient du mal.
On veut un nom.
Non, il n'y aurait pas de nom, mais c'était une manière générale comme ça, voilà, une manière de réagir.
Pas assez de distance, quoi.
Pas assez de distance. Donc cette distance-là, je suis convaincu de l'avoir aujourd'hui.
Et quel regard porterait le jeune homme de 20 ans que vous avez été sur l'homme que vous êtes maintenant?
D'abord, il se demanderait comment il a fait pour y arriver. pour survivre à tout ça, parce que on a vécu des années assez mouvementées, où on s'est bien amusé. Et il se demanderait si ce vieux qu'il a en face de lui a su garder une part d'enfance en lui. Et le vieux lui répondrait oui. Parce que je crois énormément à ça. Je crois
curiosité, en fait, envie de découvrir.
Oui, et puis la part d'enfance.
S'amuser aussi,
la part de presque une forme de candeur, je ne vais pas dire d'imbécilité, hein, c'est pas mièvre non plus. Une forme de candeur, c'est-à-dire d'être disponible.
Ouais, disponible.
Disponible aux autres, de rester à l'écoute, d'écouter ce qu'on vous raconte.
Ouvert, quoi.
Et une fois de plus, de ne pas être dans le jugement.
Et dernière piste, peut-être, pour bien vieillir, avoir enfin compris ce qui est important pour soi. Alors vous avez fait plein de choses, on peut pas tout résumer, mais on vous connaît. Est-ce qu'il y a un axe qui serait ce qui compte, peut-être ce que Lacan appelle le désir, ce sur quoi il faut pas céder, quoi. Ce serait quoi ? Et est-ce que l'âge vous permet de vous rapprocher de ça ?
L'âge, il permet de faire le tri. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, le bénéfice de ce que j'ai pu faire, de ma pauvre petite expérience, c'est que maintenant, les gens me connaissent pour telle ou telle raison et m'accordent un peu de crédit sur tel ou tel domaine, d'accord ? Donc, c'est passé à travers ce tamis. Et ce que ça me permet aujourd'hui, c'est d'aller directement au but, de dire simplement non aussi. Ouais. Pendant très longtemps, vous le disiez au départ, j'ai eu du mal à dire non. J'avais peur de blesser, j'avais peur de décevoir. Donc
C'est ça. Je savais pas si je parlais de vous, d'un personnage qui vous ressemble.
Non, mais ça me ressemblait. Et maintenant, j'ai appris à dire non. Voilà. Mais non avec le sourire. Non sans blesser.
Et oui, oui à quoi ?
Oh, à plein de choses. À plein de choses. À plein de propositions qu'on peut me faire. Et des trucs les plus incongrus. Les plus incongrus. Là, à la rentrée, on démarre une nouvelle émission sur Canal, une nouvelle émission
sur
de cinéma.
Une
nouvelle mouture de l'émission de cinéma.
Comment elle va s'appeler ?
Pour l'instant, elle s'appelle Faut voir. Ouais. Parce que j'aime bien l'idée de Faut voir. Et le double sens de Faut voir. Je pense qu'elle va garder ce titre-là, mais voilà, il y a une...
C'est pas mal comme épitaphe.
Ouais, j'adore. Non, la meilleure épitaphe de toutes, c'est celle de Groucho Marx.
Ouais, c'est quoi ?
I told you I was sick.
Ah ouais.
Je vous avais bien dit que j'étais malade. Ça, on peut pas toper ça.
Ouais. Ou alors, être un bon vivant, un bon vieux.
Groucho Marx.
Bon vieux, bon mort.
Deux fois qu'on cite Groucho Marx dans cette émission.
Eh bien, ça m'amène logiquement au portrait final. Merci beaucoup, Antoine Decaux, de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Et je vais essayer, pour vous remercier, de dégager la philosophie de la vie que j'ai entendue. Alors, je dirais une dialectique entre l'ouverture et la candeur. Mm-hmm. Viens, ami, entre dans l'ouvert, nous disait Hölderlin. Et puis, deux figures tutélaires, peut-être. Bien sûr, Bruce Springsteen, cette idée d'être fidèle à soi, d'être en lien avec les autres, de parler aussi des autres, d'être curieux et généreux. Et donc, une tension comme ça entre la sagesse d'Iggy Pop, notamment l'accomplissement, et puis la naïveté, continuer à être curieux. Et de l'autre côté, on ne peut pas ne pas finir là-dessus, la sagesse de Clint Eastwood, ne pas laisser entrer le vieil homme dans la maison, surtout qu'évidemment, il est déjà là. Merci beaucoup Antoine Decaux, je recommande votre magazine, Vieux, le dernier numéro, et bien sûr votre très belle bande dessinée, Il déserte, il sans eux, aux éditions d'Argo. Merci beaucoup.
Merci Monsieur Pépin.
Cette émission a été préparée, merci beaucoup, très bien préparée par Estelle Gap, Laura Dumez et Audrey Carme. À la programmation musicale, Valentine Chaudebois, qui connaît bien Antoine Decaux et qui lui a préparé son petit Bruce Springsteen. Émission réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Jérôme Ragano.